Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas dans nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Je pensais à ce texte parce que c'est vrai que l'été, on est beaucoup dehors, et puis on a peut-être encore plus l'occasion de voir la nature, hein, la création, de voir comment Dieu a fait les choses de façon extraordinaire et qu'elles sont vivantes, et puis de voir aussi comment, si l'homme y met pas le doigt, ou plutôt le pied, ou je sais pas quoi, ça fonctionne de façon incroyable, hein, la façon dont tout s'imbrique dans ce qu'on appelle la nature qui est l'œuvre de Dieu, et comment chaque chose est utile à une autre chose. Et puis, dans nos vies spirituelles, c'est le même principe. Vous savez que la Bible nous parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Les hommes font des mauvaises œuvres, font des choses qui sont pas bien, mais tout ce que Dieu fait et qui est bon, c'est toujours quelque chose de vivant qui est le résultat d'un processus de vie. Il y a toujours naissance avec fécondation, naissance, ça grandit, ça se reproduit, ça se multiplie. Et je trouve que c'est vraiment important que nous puissions considérer nos vies spirituelles, pas comme une succession de faits, ou de croyances, ou de choses qu'on fait, mais d'une part comme un tout, et d'autre part comme quelque chose de vivant, comme un jardin qui a besoin d'être cultivé. Malheureusement, nous sommes sur terre, et parce que l'homme a fait le choix qu'il ait fait, et puis que le péché est venu régner, le jardin ne va pas dans le bon sens naturellement. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, tout le monde, reçoit la lettre de nouvelles d'Alain Audercé, mais dans la dernière que j'ai pu lire, qu'il avait envoyée, il explique comment il vient de faire une tournée d'évangélisation, je ne sais plus trop où, dans plein d'endroits, donc il était absent. Et quand il est arrivé chez lui et qu'il a ouvert la porte pour aller dans son jardin, il n'a pas reconnu. J'avais laissé un jardin propre et je retrouve une jungle, sauf que c'était une jungle de mauvaises herbes. Les bonnes choses étaient plus ou moins étouffées ou étaient mortes ou écrasées, et les mauvaises s'étaient développées de façon incroyable, quoi. Et puis, il prenait cet exemple pour dire que c'est comme ça dans nos vies. Si on laisse les choses aller naturellement, malheureusement, dans le monde où on vit, ce qui est pas bon se développe, et puis ce qui est bon s'étouffe, quoi. Et notre vie avec Dieu, c'est vraiment un jardin qu'on doit cultiver, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, mais en se rappelant que c'est quelque chose de vivant, hein. Et puis nous, on a trop tendance à essayer de réduire ça à des choses à faire, pas faire, hein. Des actions, des programmes, hein. Voilà, je vais au culte, je lis ma Bible le matin, j'ai prié 5 minutes, j'ai donné un traité. Toutes ces choses-là sont bien, ou peuvent être bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous vivions avec lui. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de considérer ce verset. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. On peut mal comprendre, je pense, ce verset, un petit peu comme si Dieu était là en train de dire « Ah, vous voyez, si vous m'écoutez pas, vous allez avoir des problèmes, quoi. » En gros. C'est pas du tout l'esprit de ce passage-là et c'est pas ce qui est dit dedans. Ce que l'apôtre Paul nous rappelle ici, c'est que de la même façon que Dieu a établi dans le monde visible, physique, des lois, qu'on ne peut pas ignorer, parce que si on les ignore, en tout cas, il y a des conséquences, hein. Le monde spirituel est le même. En réalité, quand je dis qu'il est le même, c'est à l'envers que ça se passe. le monde physique a été calqué sur le monde spirituel. Mais pour nous, parce que nous sommes humains, nous découvrons le monde physique et petit à petit, on est surpris. Ah, c'est pareil dans le monde spirituel. Dieu sourit. Non, le monde spirituel existait toute éternité et il a fait un monde physique qui, dans certains points ou dans beaucoup de points, est calqué dessus. Donc, notre vie avec Dieu, c'est quelque chose de vivant, c'est pas juste des actions. Et ce qui va apparaître, ce qu'on va voir, ce qui va être manifesté, ce qui va être rendu visible, c'est le résultat de ce que on aura semé et puis entretenu et fait pousser. Moi, j'ai fait un jardin cette année un petit peu. Et finalement, je pensais être très en retard et puis j'ai eu de la chance. Puisque j'ai évité la grêle, avec le froid qu'il y avait avant, finalement, je m'en sors pas trop mal, quoi. Mais ça a pas réussi avec les haricots, le reste a bien marché, parce que il faisait pas assez chaud pour que ça germe. Et puis finalement, j'ai arrosé, mais c'est les épines qui ont poussé. Puis je suis parti en vacances et quand je suis revenu, il y avait deux belles rangées d'épines sous mon fil, là, bien hautes, quelques haricots étouffés dessous, quoi. C'est comme ça. J'ai dit, j'ai appris pour l'an prochain comment il me fallait faire autrement. Par contre, mes courges et mes courgettes vont bien, quoi. Mes tomates aussi. Mais dans nos vies spirituelles, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on a semées, puis ça pousse bien. Il y a des choses qu'on a semées, mais on n'a pas su comment il fallait faire. Ça n'a pas bien poussé, ça s'est mélangé avec d'autres choses. C'est pas grave. On est là pour continuer d'apprendre. Mais il nous faut savoir que ce qui se manifeste dans nos vies, c'est pas par hasard. C'est pas, on est toujours à trouver des excuses. C'est la faute de l'Église, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. En réalité, oui, il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais à la fin de tout, ce qui pousse, c'est ce que j'ai semé, ou ce que j'ai laissé grandir, ou ce que j'ai pas voulu arracher, ou ce que j'ai arrosé, ou ce que j'ai entretenu ou pas, c'est le résultat. Bien sûr, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui fait qu'il fait soleil ou pas, qu'il pleut ou pas, donc il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais il y a une partie qui dépend de nous, et les effets sont pas toujours visibles immédiatement. C'est tentant quand on est un jardinier néophyte, 2 heures après avoir mis la graine, d'aller la déterrer pour voir s'il se passe quelque chose, quoi. Bien sûr, si on fait ça, il va rien se passer, quoi. Et puis, selon les semences, c'est rapide, mais d'autres, c'est pas rapide. Il faut attendre avant qu'il se passe quelque chose et que les conditions nécessaires soient là. Donc, quand il est dit, ne vous faites pas d'illusions, tout ce qu'un homme sème, il récoltera. Il n'y a pas, c'est pas un dieu vengeur qui dit, vous allez voir, à chaque fois que vous faites mal, vous allez récolter des ennuis. C'est simplement Dieu qui nous rappelle, il y a des règles dans le monde spirituel, des lois spirituelles qui existent. Il vous faut les connaître et il vous faut vivre en fonction de ces règles-là parce que il n'y a pas de favoritisme. C'est pas parce que vous êtes gentil qu'elles vont être différentes, c'est pas parce que vous êtes méchant qu'elles vont être différentes. Il y a ces règles-là, hein. Un croyant ou un incroyant qui saute d'un pont, il s'écrase en bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi de... C'est quoi ça ? La gravité ? Ça, hein ? Un croyant ou un non-croyant qui saute dans l'eau, il ressort mouillé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trempé dans l'eau, etc., etc. Les lois qui sont là s'appliquent pour les gentils, pour les méchants, pour les bons, pour les très méchants. Hein ? C'est pareil dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on peut être surpris parce que pour nous, on a l'impression que si quelqu'un est gentil, alors tout ce qu'il fait doit être bien. S'il est méchant, tout ce qu'il fait est pas bien. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. Donc, il nous faut connaître ce monde spirituel, les lois qui le régissent, pour savoir comment jardiner notre vie spirituelle. Et c'est ce qui donne du sens à tout le reste. Pourquoi on lit nos Bibles ? Pas parce que ça fait plaisir à Dieu qu'on lise un vieux livre où on comprend pas grand-chose, mais comme c'est ennuyeux et qu'on le fait quand même, Dieu est content. Non, quelle mauvaise image de Dieu. On lit la Bible parce que c'est un des moyens, et probablement le plus précis, pour connaître les lois spirituelles qui font que cette vie de Dieu va pouvoir pousser, se développer, et que ce qui a été semé va pouvoir grandir. Pourquoi on prie ? La prière, c'est un peu l'arrosage dans le jardinage. Il faut qu'il y ait de l'eau pour que la vie soit là. L'eau est à la base de la vie, toujours dans tous les domaines. Et la prière, cette relation avec Dieu, à la fois permanente et à la fois ponctuelle de façon plus particulière, est là pour que aussi la vie se manifeste. Pourquoi on se retrouve comme ça entre croyants? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui stimule, hein, cette vie qui est en nous. On pourrait dire c'est le compost, c'est de l'engrais. C'est pour ça que c'est pas gênant si on est un peu pourri. Hein, ça fait de la fumure. Hein. On se rassemble ensemble et ça nourrit. C'est un mystère, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Et il y a toutes ces choses-là qui sont là. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme. C'est une longue phrase pour traduire. En grec, c'est très court, mais c'est vrai que on peut passer à côté. Hein. Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption. Ça, c'est la traduction littérale. Mais j'aime bien cette traduction-là parce que c'est vrai que quand on parle de la chair, dans les milieux chrétiens et encore plus évangéliques, hein, la chair, c'est les péchés de la chair, hein, le sexe, la convoitise, ces choses-là. Or, là, c'est pas du tout de ça que ça parle. Enfin, ça peut parler aussi de ça. Ce qu'il est simplement dit ici, c'est que il y a des choses qui sont corruptibles et des choses qui sont incorruptibles. En d'autres termes, il y a des choses qui sont temporelles et des choses qui sont éternelles. Nous, lorsque nous pensons à chair, on pense à sale, à immoralité. Ça peut être le cas, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Simplement, l'apôtre Paul ici fait la distinction entre deux choses. Ce qui est éternel et ce qui va disparaître le jour où nous quittons cette terre, qui est temporelle. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément sale, c'est pas forcément immoral, c'est juste temporel. Hein. On peut même l'apprécier, mais on doit savoir que nous sommes en formation sur cette terre, nous sommes à l'école, c'est juste quelques petites classes avant la vraie grande aventure. Hein. Ce qu'on appelle le ciel, l'éternité, le paradis, ou je sais pas, tous les mots, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le début d'une vraie vie. Là, ici, on est juste en classe préparatoire. Alors, pour nous, c'est difficile à comprendre parce que, ben, pour nous, la vie, c'est ce qu'il y a sur Terre, et puis après, ça s'arrête, on sait pas vraiment ce qu'il y a après, comment ça se passe. Mais, le message de l'évangile, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben, au-delà du, ben, pas au-delà, en plus du fait que on était séparés de Dieu, que Christ est mort pour qu'on puisse se réconcilier avec lui, c'est le fait que ça nous permet de revenir dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était pas juste qu'on vive 50 ans, 80 ans, 100 ans, puis ça s'arrête, puis après tout se fige, et pour l'éternité, il n'y a rien qui va se passer, hein, et on va être juste, on va rien faire de mal. Vous imaginez? C'est horrible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est peu motivé en tant que chrétien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les non-croyants ne sont pas trop attirés par ce qu'on leur propose. Parce qu'en gros, leur vie est pas pire ou pas meilleure ou pas différente de la nôtre. Et puis, pour après, on n'a pas trop de quelque chose d'enthousiasmant à proposer, hein. Dans certaines imageries, on est sur un nuage avec une robe blanche et une harpe, avec une petite assiette au-dessus de la tête, c'est génial, ça donne envie. Dans d'autres, on est à genoux pour l'éternité, à chanter des vieux cantiques. Enfin, dans tous les cas, qui a envie de ça, honnêtement? Mais c'est pas ça que Dieu nous propose, c'est pas marqué nulle part dans la Bible. On va vivre, grandir, se développer pour l'éternité avec lui. Et la vie éternelle, chaque fois qu'il est parlé de vie éternelle, pour nous, en tant qu'humains, on est tellement omnibulés par le début et la fin, qu'on pense simplement dans le temps. Il faut toujours se rappeler quand on lit la Bible et qu'il est parlé de vie éternelle, que le fait qu'elle ait ni commencement ni fin, ou pour nous un commencement et pas de fin, c'est une des caractéristiques, mais c'est même pas la principale. C'est pas juste une vie sans fin, c'est une qualité de vie, c'est une certaine vie, c'est la vie de Dieu. Et c'est ce Dieu qui a créé, ben, le monde dans lequel on vit. Quand on voit la richesse, la diversité, la beauté, la grandeur, la majesté, l'harmonie, tout ce qu'on peut imaginer qu'il y a dedans. Et ça, c'était juste temporaire. Le vrai va être des milliers de fois, infiniment mieux que ça. Donc, on va pas C'est pas on vit sur Terre et puis Dieu nous aide, et puis un jour on meurt, et puis là tout s'arrête, et puis c'est figé pour l'éternité, mais au moins on va pas en enfer. Mais c'est presque l'enfer, cette vision-là du ciel. Or non, nous sommes en train d'apprendre quelques classes préparatoires. Hein. C'est pour ça que la Bible dit la vie de l'homme sur Terre, c'est une vapeur qui passe. C'est une plante qui, c'est fini. Hein. Et puis, les gens plus âgés que moi, je suis déjà âgé, mais les gens plus âgés que moi me contrediront pas. Plus ça va vite. Hein. À l'âge de ma fille, 50 ans, c'est l'éternité, des milliards d'années. Hein. Ma maman qui a 80 ans me dit toujours, toi qui es jeune, je dis, ouais, jeune, j'ai 50 ans quand même. Ouais, c'est jeune. Hein. C'est très relatif. Mais en tout cas, la vie d'un être humain, c'est ce que la Bible nous dit, c'est une vapeur. Hein. Et ça, c'est juste les années préparatoires, quelques petites classes. C'est l'école enfantine. On n'a pas commencé encore. C'est juste le béaba, c'est apprendre à lire et à écrire pour après pouvoir se débrouiller. Hein. Et on va rentrer dans la vraie vie qui va continuer. Mais pendant ces classes préparatoires, Dieu nous dit, et Paul nous le rappelle ici, déjà ici-bas, vous pouvez soit accumuler du périssable, soit accumuler des choses qui ont une valeur éternelle. À vous de voir, parce que Dieu nous a voulu libres, hein, condition indispensable pour qu'il y ait une relation d'amour. Et puis, il nous a mis sur terre, hein, avec plein de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi je suis né ici et pas ailleurs? Pourquoi je suis né en bonne santé et l'autre non? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pas de réponse à ces questions-là. Simplement, on est là, mais on a des possibilités de choisir certaines choses ou pas, de désirer ou pas, de cultiver certaines choses ou non. Et Paul nous dit, attention, il y a des principes spirituels. Dieu va pas faire ça comme ça. Tiens, lui, sa tête me plaît, lui, elle me plaît pas, lui, il a l'air gentil, lui, il n'est pas gentil. Non, ces choses-là fonctionnent, qui que ce soit qui les fasse. Hein. Encore une fois, si un non-croyant met une graine dans la terre au bon moment et l'arrose comme il faut, à la bonne température, ça va pousser. Et si un croyant rempli de foi met sa semence au mauvais moment, l'arrose pas, et là où il faut pas, ça va pas pousser. C'est pas parce qu'un croit ou l'autre croit pas. Hein. Il y a des lois derrière. Et j'aimerais prendre un autre passage qui est parallèle avec celui-là pour l'éclairer un petit peu. Je vais pas être trop long, on va bientôt terminer. Dans 1 Corinthiens 3, 10. Hein. Paul explique des choses importantes et puis il dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Ce fondement, en effet, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ce fondement, on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, le jour en effet le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu. Et ce feu éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur ce fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Alors ce passage, il est terrible, terrifiant. On peut l'utiliser de plein de façons bizarres et tordues. Mais il nous parle de la même chose. Ce que Paul dit, c'est que il n'y a pas d'autre fondement pour le début de la vie avec Dieu que l'œuvre de Christ. Il n'y a pas d'autre raccourci. Nul ne vient au Père que par moi. On l'a chanté ce matin. Le chemin, la vérité, la vie. Dans d'autres traductions, le chemin, c'est moi parce que je suis la vérité et la vie, dit Jésus. Donc, il n'y a pas d'autre fondement que l'œuvre de Christ pour le début d'une vie avec Dieu. Mais ensuite, chacun choisit sur ce fondement ce qu'il fait avec sa vie. Depuis que nous sommes né de nouveau, que nous avons accepté personnellement l'œuvre de Christ et que nous avons été régénérés, que le Saint-Esprit a mis en nous une vie nouvelle, que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, ajoutés au corps de Christ. Depuis ce moment-là, nous continuons de vivre dans le même monde qu'avant et de faire des choix, hein, jour après jour, moment après moment, seconde après seconde. Nous construisons nos vies. Donc là, c'est une autre image. Tout à l'heure, on était avec le jardinage, là, on avait la construction. Hein. Mais c'est la même réalité qui est derrière. Nous faisons des choix. Et encore une fois, ici, c'est pas forcément question de choses immorales ou sales, hein. La paille, le foin, le bois, tous ces matériaux qui brûlent et qui se consument, c'est pas forcément l'alcoolisme, la pornographie, le vol, les viols, et non. C'est des choses qui sont temporaires, hein, et qui, pour certaines, sont nécessaires. Par exemple, avoir un métier, faire une carrière, est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que c'est éternel? Non. Est-ce que c'est indispensable? Non. C'est utile, hein, mais ça pourrait être autrement, ça pourrait être différent. Donc, c'est juste un exemple d'une chose qui n'est pas mauvaise, mais le jour où on va déjà prendre la retraite, mais le jour où on va quitter cette terre, notre profession, ça change quoi? Notre carrière, ça change quoi? Notre réussite sociale, ça change quoi? L'argent qu'on a mis en banque, la voiture qu'on a eue, la maison qu'on a eue, ces choses-là ne sont pas mauvaises, ce ne sont pas des péchés. Elles sont temporelles et on les utilise. Et Paul dit, bah, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la pauvreté. Dieu fait qu'on soit dans un pays où on peut gagner bien sa vie, avoir une belle maison, une bonne voiture et en profiter intelligemment en sachant que c'est temporel. Gloire à Dieu. On le fait en le remerciant. C'est une grâce, je ne l'ai pas mérité. J'aurais pu aussi naître dans un pays pauvre et ne pas l'avoir. Je suis ici et je l'ai, comme la santé, comme le reste. Je remercie Dieu. Mais j'ai cette intelligence spirituelle. C'est du bois, du foin, de la paille. Le jour où je vais quitter cette terre, je vais le laisser. Hein. Donc, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste, c'est temporel. Par contre, il y a des choses qui sont éternelles et qu'on va vivre moment après moment, un moment vécu avec quelqu'un, un moment vécu avec Dieu, toutes ces choses qui font que nous grandissons, que cette vie qui a été mise en nous se développe. Parce que lorsque nous allons quitter cette terre, qu'est-ce que nous allons emporter? Ben, pas notre corps physique, hein, il va ressusciter, mais pas sous la forme où il est, c'est une semence, c'est une enveloppe, un manteau de chair qu'on va laisser pour passer dans la vraie vie. On va recevoir un autre, mieux, sans défaut, sans maladie, sans infirmité, sans rien, ça va être super. Plus de lunettes, plus de perruques, hein, plus de régime, plus de médicaments, hein. Fantastique. Mais l'essentiel, c'est ce que notre être intérieur est devenu. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on doit comprendre ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Ce avec quoi j'ai construit, c'est ce qui va rester. Il n'est pas question ici d'un Dieu qui dit « Ah, tu as profité de la vie, maintenant tu vas souffrir. Ah, tu étais riche, maintenant tu vas pleurer. » Non. Juste, Dieu nous dit « Soyez intelligents. Comprenez que votre vie est courte et que vous êtes à l'école. » En préparation. Il y a une autre vie après. Une vie où on va continuer de grandir, d'apprendre, de créer, de faire des choses, d'agir, d'avoir des relations, de connaître Dieu, etc. etc., etc. Hein. Comment, on ne sait pas exactement. Ce qu'on vit sur Terre, ben, c'est une faible image. Ça sera beaucoup mieux que ça. Et ça ne peut pas être moins. Pas possible. Ça, c'est la seule chose dont on est certain. Et donc, de comprendre ces choses-là, ça va orienter nos vies différemment. Je ne vis pas dans ma vie de chrétien frustré avec « Ah, à cause de Dieu, je dois renoncer à tout ce qui est bon. » Pas du tout. Parce que Dieu m'aime, je peux préparer déjà ici cette autre vie, mais en même temps, en le vivant sur terre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est, dans Galates, je suis revenu dans le premier passage, hein, la conclusion de ce passage. Donc je le relis, hein. « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce qu'on a semé, celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Donc rappelez-vous, c'est pas juste une vie sans fin, c'est cette qualité de vie qui va, oui c'est vrai, durer pour toujours, mais qui est celle qui est auprès de Dieu. Faisons, et sans transition, hein, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons plus, nos efforts nous récolteront au bon moment. Si on suit la pensée, donc le bien, c'est pas juste de faire ce qui est bien, c'est de choisir, hein, c'est ça le bien, c'est de choisir ce qui est éternel, c'est ça faire le bien. Et puis, verset suivant, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Et je trouve ça extraordinaire comment, en fait, le fait de ne pas chercher ce qui est temporel nous amène en conclusion à faire du bien dans le temps présent aux gens qui sont autour de nous. Et vous voyez comment le message de Dieu est complet. C'est que d'une part, Dieu commence en rappelant, attention, il y a des choses éternelles, des choses qui ne sont pas, on se prépare pour l'éternité. Mais la conclusion, c'est aujourd'hui, vous vivez sur terre avec des gens. Faites du bien aux gens qui vivent autour de vous. Et en premier lieu, ou plus particulièrement, pardon, pas en premier lieu, mais plus particulièrement, aux membres de la famille de la foi, littéralement dans le texte, c'est à ceux qui appartiennent à la maison de la foi, donc aux autres croyants. Mais il est dit à tous les hommes, et à ceux-là en particulier. Donc, vous voyez comment cette chose extraordinaire, c'est que on ne part pas de choses qu'on fait pour arriver aux choses spirituelles, mais parce qu'on choisit de semer, de cultiver, d'entretenir les choses qui ne sont pas corruptibles, donc qui ne sont pas temporelles, ça va nous amener dans le moment présent et dans le monde visible et matériel à s'apercevoir qu'en fait, qu'est-ce que c'est qui a de la valeur ? C'est ce qu'on vit avec les gens qui sont autour de nous. C'est ce qu'on vit avec Dieu, ce qu'on vit avec les gens qui sont autour de nous. Et ça, je pense, encore une fois, tous les gens plus âgés que moi peuvent le comprendre encore mieux. Moi, avec les années qui passent, je le vois de plus en plus. Hein. À 20 ans, qu'est-ce qui compte ? La carrière, le travail, réussir dans la vie. Hein. À 50 ans, en tout cas, ce que je découvre toujours plus, je le savais, mais c'est les gens qui sont autour de moi. C'est encore mes parents pendant qu'ils sont là, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est vous, c'est mes voisins, c'est les gens que je rencontre, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, mais que j'aimerais rencontrer. C'est ça. Alors, pour vivre ça, ben, à côté, ben, il faut travailler, il faut une maison, il faut une voiture, il faut de l'argent, il faut payer les assurances. Mais ces choses-là, c'est, voilà, c'est des choses qu'il faut faire parce qu'on vit sur Terre. Mais ce n'est pas le but de nos vies. Et nous cultivons autre chose, des choses éternelles. Et nous faisons les bons choix parce que nous avons cette perspective éternelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va s'apercevoir qu'en faisant ça, on va avoir une qualité de vie sur Terre. Je n'ai pas dit pas de problème, hein, mais une qualité de vie sur Terre qui est la meilleure qu'on puisse avoir dans le mauvais monde où on vit. C'est une conséquence indirecte. Et c'est extraordinaire parce que finalement, on s'aperçoit que ben, c'est ce que Jésus a résumé en disant « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le monde vous sera, tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est ça. C'est la même chose dite autrement par l'apôtre Paul. Cultivons ce qui est éternel et puis on va le cultiver pour l'éternité et on va s'apercevoir que si on a nos priorités au bon endroit, finalement on a aussi le reste. Le reste qui n'est pas forcément la bonne santé, pas de problème et beaucoup d'argent, mais une qualité de vie dans ce qui est important, qui remplit nos âmes et qui les nourrit. Et puis, on continue vers ce qu'il y aura après. Alors Seigneur, on te remercie pour cette vie que tu as mis en nous, pour ces semences éternelles que tu as déposées. Fais de nous des bons jardiniers de ta vie. Aide-nous à prendre le temps de cultiver, de regarder, d'observer, et puis de voir aussi ceux qui sont autour de nous. Tous les hommes et particulièrement nos frères en la foi, de leur faire du bien, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur. Tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes qui font du bien, qui bénissent autour de nous, Seigneur. Merci de faire ce travail en nous, merci d'ouvrir nos yeux sur ce monde spirituel et sur ces principes qui le font fonctionner, qui viennent de toi, et que tu fasse grandir notre intelligence spirituelle, Seigneur, pour mieux te connaître et pour continuer d'avancer dans cette vie que tu nous as préparée. Amen.